Le journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Par milliers, ils défilent à Berlin contre les mesures sanitaires. Galerie de portraits, David Philippot. L'appel à l'aide du Louise Michel, le navire financé par l'artiste Banksy qui, lors de sa première mission en Méditerranée, a procédé à deux sauvetages, 198 rescapés à bord. Le Sea-Watch, bâtiment de Médecins Sans Frontières, vole à son secours. Quand le Tour de France offre une vitrine au soft power israélien, explication de Frédéric Mettezo. Et puis retour de la Bulle Écho de Marie Viennot qui nous entretient ce samedi, du pays le plus désindustrialisé d'Europe, la France. En Allemagne, la gestion de l'épidémie dans la durée se heurte à de récurrents mouvements de mécontentement et les mesures de restriction sont chemin faisant de moins en moins bien accueillies et de plus en plus contestées. C'est le cas aujourd'hui dans les rues de Berlin où les anti-masques, pour le dire vite, sont mobilisés. David Philippot, vous suivez pour nous cette manifestation. Qui a-t-elle rassemblé ?
Cette manifestation est déjà un succès. Des milliers de personnes se pressent autour de la porte de Brandebourg, là où je me trouve. C'est la foule la plus hétéroclite possible. Il y a là des familles hippies anti-vaccins, des sectes ésotériques, des pacifistes. On voit flotter le drapeau arc-en-ciel à côté de celui noir, blanc et rouge du Reich allemand. Parmi eux, il y a donc beaucoup de conspirationnistes et des militants d'extrême droite radicaux qui veulent prendre Berlin d'assaut. C'est le mot clé sur les réseaux sociaux. Ces manifestants se combattent d'habitude, mais là, ils sont réunis à Berlin, des corona-rebelles, des groupes donc qui doutent de l'existence du virus et qui dénoncent des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Les journalistes et les policiers sont la cible de leur colère. Un manifestant en t-shirt blanc, encadré par 30 CRS, vient d'être évacué sous les cris de la foule. Honte à vous. 3000 policiers sont mobilisés et les canons à eau sont prêts à l'usage. Si les manifestants ne respectent pas les mesures barrières, aucun ne porte de masque et personne ne respecte les distances.
David, plusieurs organisations de gauche ont appelé, je crois, à des contre-manifestations.
Oui, les associations d'extrême gauche ont appelé, c'est vrai, à des contre-manifestations depuis hier soir. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, mais il y a eu aussi des appels à ne pas se rendre en centre-ville aujourd'hui, qui concernent encore davantage les personnes de couleur. La situation est considérée comme trop dangereuse. Il y a ici des skinheads surveillés par la police, plusieurs idéologues antisémites notoires ou encore le chef des identitaires autrichiens proches du terroriste suprémaciste de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et selon nos informations, des militants d'extrême droite français sont ici pour prêter main forte à leurs amis patriotes allemands. Parmi les actions prévues aujourd'hui, il y a notamment le siège du Parlement, le siège du Bundestag.
Merci à vous, David Philippot, en direct de Berlin. La Hongrie, elle, va interdire l'accès à son territoire aux non-résidents dès mardi afin de tenter d'enrayer une hausse du nombre des contaminations par le nouveau coronavirus. Autre pays en proie à une accélération du nombre de cas de Covid-19, le Brésil. Le Brésil est un scandale qui a trait à la pandémie. Le gouverneur de Rio était démis de ses fonctions comme ses deux prédécesseurs pour des affaires présumées de corruption. Wilson Witzel est accusé, lui, par le parquet de possibles malversations et de blanchiment d'argent dans l'achat de matériel médical. C'est une correspondance de Rio de Janeiro signée Anne Vigna.
Et de trois gouverneurs, voilà le refrain entendu hier dans les rues de Rio au milieu des sirènes et de l'incessant balai des voitures de police. La police fédérale a perquisitionné 83 domiciles et a arrêté 17 personnes ce vendredi. Le parquet les accuse d'avoir monté avec le gouverneur de Rio, Wilson Witzel, une organisation criminelle pour dévier et blanchir de l'argent public destiné à acheter du matériel médical. Un scénario bien connu à Rio puisqu'il a déjà été joué par les deux gouverneurs précédents qui ont terminé leur mandat en prison. Mais cette fois, en pleine pandémie de coronavirus, le scandale passe encore moins bien pour la population. Wilson Witzel ne dort pas encore derrière les verrous, mais sa fulgurante carrière politique semble bien terminée. Cet ancien juge avait été élu en 2018 alors qu'il n'était crédité que de 2% d'intention de vote. Mais en se rapprochant de la famille Bolsonaro et en surfant sur la vague anticorruption, il avait remporté le poste de gouverneur. La lune de miel avec le président avait duré à peine un an et depuis, Jair Bolsonaro traitait de fumier son ancien allié. Le président n'est sans doute pas totalement étranger aujourd'hui à la chute de Wilson Witzel.
Il est 12h35, vous écoutez le journal de France Culture. Première mission pour le navire humanitaire Louise Michel, celui-là même financé par le street artiste Banksy et premier SOS. L'équipage qui venait de secourir 89 miraculés de l'exil a procédé à un autre sauvetage. L'équipage a compté 198 rescapés à son bord. Cet équipage qui demande de l'aide. Alicia Mehemi a joint Claire, membre de l'équipe qui a affrété le bateau.
Donc en ce moment, à bord du Louise Michel, on a 165 personnes qui ont été récupérées avec deux sauvetages différents. Et on a en plus 33 personnes qui sont dans un radeau de survie, amarrées le long du bord du bateau. Et on a aussi malheureusement un cadavre dans un sac mortuaire. Parce qu'il y a toutes ces personnes à bord, la capacité du bateau a été atteinte. Et en plus, parce qu'il y a le long du bord ce radeau de survie, ça a une forme carrée. Et donc pour tracter quelque chose de carré, c'est relativement compliqué. On a lancé un pan-pan, un appel d'urgence, hein, que les marins lancent lorsqu'ils sentent qu'ils sont face à un danger pour leur bateau. Et personne n'a répondu. On a commencé hier soir à solliciter les autorités. Pour l'instant, toujours pas de réponse. Donc, c'est-à-dire que toutes ces personnes ont passé la nuit déjà plus ou moins entassées, hein, sur ce bateau de 31 mètres et que personne ne répond à nos demandes de les amener en sécurité. C'est-à-dire que les gens, ils auraient dû être pris hier. On n'a plus de temps. On peut pas se dire on pourrait rester un jour, deux jours, trois jours, non. Il y a déjà eu trop de temps passé avec tout ce monde à bord. La situation est une situation qui dure depuis beaucoup trop longtemps, où la société civile a dû prendre le relais et où c'est inacceptable ce qui se passe. On ne laisse pas mourir des gens en mer.
Voilà, situation évolutive. Il y a une bonne heure, on apprenait que le Sea-Watch, un autre navire humanitaire en mission en Méditerranée, fait route vers le Louise Michel pour lui venir en aide. Complexe et accidenté, le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Hier, les dirigeants de la communauté économique des États ouest africains, ces dirigeants ont donné un an à la junte qui a pris le pouvoir pour tenir des élections ramenant les civils à la tête du pays. La dite junte, sans tarder, investit son numéro un des fonctions du chef de l'État en attendant la transition. Refus catégorique de l'imam Diko, figure influente, qui s'est insurgé contre cette manœuvre. Quel rejaillissement prêté à ce ferme positionnement ? Diane Berger a posé la question à Michel Galli, spécialiste du Mali.
Jusqu'ici, l'imam Diko faisait figure de faiseur de roi. Il a en quelque sorte mené le soulèvement contre Ibrahim Bakar Keïta. Et tout à coup, il se prononce contre la junte militaire au pouvoir, ce qui est tout à fait nouveau. Les militaires ont été, pendant le renversement d'Ibrahim Bakar Keïta, son bras armé, du moins le bras armé de la coalition de l'imam Diko avec le M5. Mais pour autant, il semble qu'il ne leur donne pas, comme il a dit, un chèque en blanc et qu'il entend mener, ne serait-ce qu'indirectement, une transition politique.
On sait jamais... devait rentrer plus frontalement en conflit avec l'armée, est-ce que la population le suivrait ?
Oui, tout à fait. C'est l'homme qui a le plus de popularité en ce moment. On pourrait dire qu'il va de plus en plus vers le pouvoir personnel et s'il y avait une élection libre en ce moment et s'il se présentait, il y aurait très peu de monde qui pourrait s'y opposer, en tout cas le battre de manière démocratique. Pour autant, il a dit à plusieurs reprises que lui préfère rester dans le religieux. Ce religieux qui, comme ont dit certains chercheurs comme Gilles Holder, envahit au fond le champ du politique au Mali, une sorte d'islamisation au fond du champ politique qui lui plairait davantage qu'un pouvoir personnel.
Et si le bras de fer entre l'imam Diko et la junte continue, vers quoi on pourrait se diriger ?
Tout d'abord, la junte militaire est en pleine négociation en ce moment, non seulement avec la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais aussi avec le M5, pour avoir un gouvernement formé en partie de militaires et en partie de civils. Ceci dit, il pourrait y avoir de nouveau des manifestations de rue lancées par l'imam Diko pour faire une pression pour céder la place un gouvernement entièrement civil.
Michel Galli, spécialiste du Mali. La principale organisation américaine de défense des droits civiques a eu ses mots en apprenant la mort à l'âge de 43 ans de Chadwick Boseman, star des studios Marvel, Black Panther. Il a su marcher comme un roi sans perdre le contact commun. Fin de citation. Le Tour de France démarre aujourd'hui de Nice avec 2 mois de retard sur le calendrier prévu en raison de l'épidémie de coronavirus. Parmi les équipes engagées figure Startup Nation, qui est la première équipe israélienne à disputer la grande boucle. Si cette équipe n'a aucune chance de victoire finale, elle n'en est pas moins un précieux outil de communication. Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Le maillot de l'équipe est aux couleurs du drapeau israélien, blanc et bleu, et son nom claque comme un slogan, Startup Nation. Pour son propriétaire, Sylvain Adams, il ne s'agit pas seulement de sport.
On the one hand, we are promoting cycling.
D'un côté, nous devons promouvoir le cyclisme en Israël. De l'autre, nous devons promouvoir notre pays pour montrer le vrai visage d'Israël qui est tellement mal compris à cause d'une couverture médiatique à sens unique.
Pour Asaf Ackerman, journaliste à la chaîne Sport 5, l'événement est considérable.
Tout le monde va voir l'étoile de David, tout le monde va voir le drapeau d'Israël pour la première fois. On veut tous renvoyer une image parfaite dans le monde.
Le message s'adresse aussi aux Israéliens, estime Nimrod Goren de l'Université hébraïque de Jérusalem.
Israël n'est pas considéré comme une très grande nation sportive, alors à chaque succès, ça devient une fierté nationale. Les Israéliens ont besoin de bonnes nouvelles.
Mais pour Eyal Zisser de l'Université de Tel Aviv, il y aura toujours des limites.
Vous gagnez une compétition et juste après, le Premier ministre parle d'annexion. La réalité est la réalité. Il y a un conflit, l'extrême droite a de grands rêves. L'image renvoyée ne change pas la réalité du paysage.
Plusieurs mouvements pro-palestiniens dénoncent une propagande honteuse. Ils appellent à manifester sur les routes du Tour.
Le sport de haut niveau pour changer l'image d'Israël. Une enquête de notre correspondant à Jérusalem à découvrir sur franceculture.fr.
La bulle économique. Marie Viennot.
Réindustrialiser la France, c'est l'un des axes majeurs du plan de relance. La France est le pays de l'Union européenne qui est le plus désindustrialisé depuis les années 70. C'est la question à laquelle tente de répondre la bulle économique.
Depuis maintenant 6 mois, le textile est en crise. Réduction d'horaires, fermeture d'ateliers, d'usines même. De mois en mois, on espère la relance.
Extrait du journal télévisé en avril 65. La relance évoquée à l'époque n'est que commerciale, saison du blanc, printemps, et le textile fait alors vivre plus de 500 000 personnes en France. 50 ans plus tard, ce chiffre a été divisé par 5. Ce déclin industriel aura concerné tous les secteurs. Depuis 1974, l'industrie a détruit plus de 2 millions d'emplois dans notre pays. Tous les pays développés ont connu ces mutations. Mais en France, le déclin de l'industrie a été beaucoup plus massif qu'en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Pourquoi plus chez nous que chez nos voisins qui partagent la même monnaie et peu ou prou les mêmes standards sociaux ? Première explication, la plus entendue, l'ouvrier ou l'ouvrière française sont trop chers. Comparé au sud-est asiatique et même aux pays comme la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, c'est sûr. Comparé à l'Espagne et l'Italie, c'est vrai aussi. Depuis 2000, sous l'effet notamment des 35 heures, le coût horaire de la main-d'œuvre a augmenté et pu pousser les industriels français soumis à la concurrence à rogner sur l'investissement ou l'innovation, ce qui peut expliquer qu'ils se soient fait distancer par leurs voisins. Mais premier bémol, les coûts salariaux ne représentent que 16% des coûts finaux dans l'industrie. Et depuis 2013, ils ont été réduits par les allègements de charges. Et puis si on se tourne vers l'Allemagne, le coût du travail manufacturier y est toujours plus élevé que chez nous. Alors quoi d'autre ? Les impôts de production, s'écrient les industriels depuis des années. Ils représentent en France 2% du PIB contre 0,5% en Allemagne ou 1% en Espagne. Ce sont des coûts fixes et cela rend la concurrence peu équitable, d'où la décision du gouvernement de réduire ces impôts de production. Salaires, impôts, cela suffit-il pour expliquer la déroute industrielle française ? N'ayant plus qu'une minute alors qu'une heure n'y suffirait pas, citons pour finir deux pistes de réflexion. En France, le poids des multinationales est plus grand que chez nos voisins. Or, entre 2007 et 2014, leurs effectifs à l'étranger ont augmenté de 60%, deux fois plus que pour les multinationales allemandes et italiennes. Ces emplois ne se sont pas forcément substitués aux emplois en France, reconnaissent les chercheurs qui ont mené cette étude. Mais ils remarquent que dans les années 2000, pour l'automobile, 10% des voitures vendues en France étaient produites à l'étranger. En 2016, c'était 50%. En Allemagne, on est passé dans le même temps de 15 à 25%. Nos fleurons industriels manqueraient-ils de patriotisme ? Leurs managers ont-ils été séduits par cette vision de l'ancien patron d'Alcatel ? Des entreprises sans usine, on disait aussi faiblesse. Et du côté de nos dirigeants politiques, ont-ils manqué de vision ? Non, ils ont fait mieux. Accusé ce syndicaliste de la CFDT en 1975, ils ont planifié la fin de certaines industries.
La mort du textile est voulue, elle a été programmée par le gouvernement et le patronat dans le 7e plan.
Le septième plan tourne clairement la page du soutien de l'État à l'industrie, sauf pour le militaire et le nucléaire. Est écrit, le gouvernement évitera de modifier les conditions de la concurrence en distribuant des subventions. La rentabilité se conquiert, elle ne se concède pas. Pour beaucoup, c'est le début du néolibéralisme en France et du laisser-faire. Le moment où le corps des mines se fait absorber par l'inspection des finances, décrit un observateur. Fini la vision d'un État colbertiste, dirigiste, protectionniste, place à l'État qui ne pilote plus mais accompagne les mutations. L'industrie passe définitivement sous la tutelle des finances en 1997 jusqu'à disparaître totalement de l'intitulé du gouvernement à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Covid oblige, depuis le remaniement, l'industrie a de nouveau sa ministre déléguée, Agnès Pannier-Runacher. Elle peut dorénavant s'y consacrer à plein temps. Autant que la relance, elle va cependant devoir gérer une nouvelle vague de désindustrialisation qui s'annonce massive.
Merci à vous Marie Viennot. Les grandes lignes météo de l'après-midi de la Normandie et les Hauts-de-France jusqu'à l'ouest des Pyrénées. Les nuages s'accompagneront souvent d'averses parfois orageuses, plus fréquentes près de la Manche. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili à la technique, Ludovic Auger.